Bonjour, je me présente, je suis Jean Foyer, chargé de recherche à l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Pour commencer, je voudrais remercier la librairie Mola et Cinéma Science, le festival Cinéma Science, pour l'invitation. Et en guise d'introduction, je voulais vous donner quelques éclaircissements généraux sur la notion de controverse OGM, avec un petit travail de définition dans un premier temps sur la notion de controverse qui, dans le langage commun, renvoie à une polémique, mais qui, en socio des sciences, a un sens un peu plus déterminé. Ça renvoie à l'idée d'un débat sur des éléments incertains, souvent avec une forte dimension technique et conflictuelle. Donc, en gros, on peut résumer la notion de controverse autour de trois notions, celle d'incertitude, de technicité et de conflictualité. Des OGM, bon, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais c'est peut-être pas inutile de faire une petite définition. C'est donc un organisme vivant dans lequel on a inséré un ou plusieurs gènes issus d'un organisme différent pour conférer à l'organisme dans lequel on a transféré le gène une fonction particulière. Par exemple, c'est un exemple comme ça, on peut prendre le gène d'une luciole de la luminescence pour la transférer dans un poisson et le poisson deviendrait luminescent. Enfin, des poissons phosphorescents, des poissons OGM phosphorescents, ça existe. Donc, c'est pas un exemple complètement pris au hasard. Donc, les OGM, il y en a vraiment de beaucoup de types. Et c'est avant tout, dans un premier temps, un outil de recherche scientifique. Il en existe donc énormément dans les laboratoires scientifiques, mais il existe beaucoup moins d'OGM commerciaux. Cela dit, sur le principe de la définition que je viens de vous donner, ça ouvre a priori des possibilités infinies de recombinaison du vivant. On peut modifier des bactéries, des plantes, des animaux, avec des types de transgènes, enfin de gènes issus de tous les différents niveaux du vivant. Donc concrètement, dans les laboratoires, il existe par exemple des souris OGM dans lesquelles on a transféré un gène du cancer pour pouvoir étudier la genèse des cancers. Il existe, au niveau commercial, donc les OGM qui sont diffusés, il y a des OGM pharmaceutiques qui finalement sont peu pris dans la controverse, sont peu débattus. C'est souvent des bactéries modifiées pour produire, par exemple, de l'insuline ou des hormones de croissance. C'est deux des applications premières et les plus importantes. Mais ceux qui font surtout débat, ce sont les OGM agricoles. Et en fait, c'est assez limité. Il y a deux grands types d'OGM agricoles qui sont ceux qui confèrent la résistance aux herbicides et ceux qui confèrent la possibilité des plantes de produire elles-mêmes leurs propres insecticides. Donc l'intérêt principal des OGM commerciaux végétaux qui existent, c'est de faciliter le travail agricole et l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc il existe deux grands types d'OGM végétaux qui sont présents essentiellement dans quatre plantes, très majoritairement le soja et le maïs, mais également dans le colza et le coton. Et ces technologies agricoles ont été adoptées à grande échelle dans finalement relativement peu de pays jusqu'alors. Les principaux pays producteurs sont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine. Il y a 90% des surfaces plantées en OGM actuellement qui sont sur le continent américain. Et il y a également de la production de coton essentiellement en Chine, en Inde et au Burkina Faso. Et les surfaces au niveau mondial plantées en OGM représentent 8% de la surface agricole utile en fait. Et cette technologie est monopolisée par un nombre restreint d'entreprises. Essentiellement, il y en a quatre, Monsanto, Syngenta, DuPont Pioneer et BASF. Donc pour résumer, il y a deux grands types d'OGM, les résistants aux herbicides et les BT, les insecticides. Il y a moins de 10 pays qui les utilisent. C'est essentiellement dans 4 plantes et 4 entreprises ont un monopole de fait sur cette technologie. Mais ça recouvre évidemment des enjeux économiques assez énormes et ça a surtout déclenché une énorme controverse dont je vais vous parler maintenant. Enfin, l'angle d'attaque un peu que je prends, c'est essayer de montrer comment la controverse OGM s'étire de controverses scientifiques très très techniques jusqu'à des conflits, voire des véritables chocs de civilisation. Mais avant, je vais vous parler un petit peu du corps un peu de mon métier, parce qu'on se demande souvent, enfin souvent on ne comprend pas trop bien ce que je fais en tant que sociologue. Donc en tant que sociologue, je suis scientifique et je m'intéresse à d'autres scientifiques, généralement plutôt dans le champ de la biologie. Donc c'est la sociologie des sciences et qui a développé toute une approche des controverses. Et notamment, là, je vais essayer de vous montrer comment on peut, enfin, quels sont les outils pour comprendre les controverses appliquées aux OGM. Donc, le premier travail d'un sociologue qui s'intéresse aux controverses scientifiques ou controverses sociotechniques, c'est d'identifier ou de cartographier les acteurs. Donc, selon leur appartenance ou leur position. Il y a évidemment des acteurs scientifiques de différents types, des généticiens, des agronomes, des écologues, des biotechnologues. Il y a des acteurs institutionnels spécialisés, par exemple en France, sur le thème, l'institution, c'est le Haut Comité aux Biotechnologies qui vient d'être fondé, mais il y a aussi d'autres institutions plus générales, comme les ministères, ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, notamment les conflits sur cette question des OGM entre ministère de l'Agriculture et ministère de l'Environnement est quelque chose qui revient assez souvent au niveau international. Mais il y a des institutions aussi internationales, comme l'Union européenne, forcément, qui jouent un rôle très important dans le débat, ou la FAO. Il y a aussi des acteurs issus de la société civile, des ONG environnementales, type Greenpeace, les Amis de la Terre, enfin, il y en a beaucoup d'autres, des syndicats paysans, je pense notamment au niveau international à la Bia Campesina, il y a des associations de consommateurs, il y a des ONG un peu d'un type nouveau de veille scientifique qui justement surveillent les évolutions techniques, et il y a des organisations souvent liées au secteur privé de promotion des biotechnologies. Donc il y a aussi des acteurs privés, essentiellement là sur le dossier OGM, les semenciers, mais aussi interviennent les entreprises de la grande distribution. Et il y a enfin des acteurs médiatiques qui jouent un rôle important. Des journalistes, par exemple Hervé Kempf du Monde, jouent aussi un rôle direct dans la controverse. Donc ça, c'est le premier travail. Le second est d'identifier ce qu'on appelle les différents cadrages. C'est-à-dire, par cadrage, on entend les manières d'aborder et de parler de la controverse et des OGM. Par exemple, le premier cadrage qui a été dominant, et qui l'est encore, c'est celui des risques et des bénéfices sanitaires. Est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est bon pour la santé de consommer des OGM ? Ça a été vraiment un des cadrages principaux. Il y a le même type de question au niveau environnemental. L'évaluation des risques et des bénéfices environnementaux des OGM ont fait partie intrinsèque de la controverse. Il y a des cadrages beaucoup plus économiques ou liés à l'économie de la connaissance sur les questions d'innovation, de monopole des entreprises, les liens entre recherche et secteur privé. Il y a un cadrage plus souveraineté alimentaire, toutes les questions de faim dans le monde, de malbouffe, de droits des paysans, de modèles agricoles. Et il y a un cadrage plus moral autour des questions d'éthique du vivant, notamment sur l'appropriation, les droits de propriété intellectuelle et la manipulation du vivant. Donc on essaye de voir comment les cadrages sont dominants à tel ou tel moment, ou comment même ils peuvent se superposer. Et si, au bout d'un moment, on peut avoir un certain recul sur la controverse et tenter de la périodiser, de définir la séquence et l'histoire. Par exemple, sur la controverse sur laquelle j'ai travaillé au Mexique, dans les années 90, le débat, enfin la controverse est vraiment restreinte et confinée au milieu des scientifiques, les biotechnologues spécialistes de la question et au niveau politique des institutions qui sont censées gérer les questions de biosécurité. En plus, en 1998, il y a un moratoire qui tend à affaiblir la controverse. Par contre, en 2001, il y a une phase d'alerte. C'est aussi des phases qu'on identifie souvent quand on compare les controverses. En l'occurrence, au Mexique, on découvre des transgènes dans les variétés locales de maïs. Il y a une publication dans Nature et ça fait tout un... Enfin, c'est repris au niveau médiatique. Donc souvent, la phase d'alerte marque la socialisation de la controverse, l'entrée en société et c'est repris par des groupes militants et la controverse a vraiment un écho beaucoup plus fort. En 2005, il y a une phase légale. Souvent aussi, on peut déterminer des phases légales quand il y a une norme qui vient reconfigurer un peu les règles du jeu, finalement. Et actuellement, en 2009, s'est ouvert une nouvelle phase autour des questions des autorisations, puisque le moratoire a pris fin au Mexique. Et les premières autorisations pour planter des maïs transgéniques sont tombées. Et on est là, on va voir comment se développe cette phase. En France, on peut appliquer le même type de séquence. C'est pas tout à fait la même séquence. Par exemple, la gestion politico-légale est venue très tôt. Il y a eu une loi dès 1992. Avant même que la controverse explose au niveau de toute la société et au niveau médiatique à partir de 1996, quand les premiers bateaux importants des OGM, et notamment du soja transgénique, arrivent en France. Greenpeace fait une action, et à partir de ce moment, la controverse devient vraiment dans le domaine public. Donc voilà, c'est un peu notre manière d'aborder ces thématiques-là. Maintenant, je vais essayer de vous montrer comment on passe justement d'une controverse scientifique pure à une controverse socio-technique et finalement à un conflit global. La controverse scientifique sur les OGM naît très tôt, dès 1975. Il y a un appel de Paul Berg qui a eu le prix Nobel en biologie. C'est le père d'un des premiers OGM. Et à Assilomar, en février 1975, il réunit toute une série beaucoup de scientifiques intéressés sur ces questions de manipulation génétique qui sont encore au stade embryonnaire. Pour essayer de fixer des règles de confinement pour les manipulations génétiques en laboratoire. Alors c'est souvent cette étape, souvent la conférence d'Assilomar est présentée comme l'application à eux-mêmes des scientifiques du principe de précaution. C'est assez commun d'avoir cette lecture-là. Il y a une autre lecture assez intéressante de Jeremy Rifkin, qui est un auteur américain, qui dit qu'en fait, au moment de cette conférence, tout le monde était d'accord pour limiter les règles de confinement, pour pas que ça soit très, très restrictif, et jusqu'à ce qu'un avocat intervienne, disant qu'il pouvait y avoir des risques légaux pour les scientifiques, éventuellement, s'il y avait des problèmes de dissémination. Et du coup, cette intervention de l'avocat aurait complètement changé les conclusions de la conférence d'Assilomar vers des conclusions plus restrictives. Et la controverse scientifique n'a finalement jamais cessé depuis, et sur plein de dimensions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut comprendre que les controverses entre scientifiques portent sur vraiment différents points. Sur la transgénèse en elle-même, la transgénèse, c'est le fait de manipuler génétiquement un organisme. Est-ce que, en soi, la transgénèse peut poser problème, notamment pour la déstabilisation des génomes et des organismes qui portent le transgène. Il y a aussi des controverses sur les méthodes de la transgénèse. Il y a plusieurs types il y a plusieurs méthodes pour transférer un transgène, soit par voie virale, soit en bombardant le génome avec des canons. Il y a aussi toute une série de débats là-dessus. Sur le type de transgène, sur le type de caractères qui sont transférés, par exemple, sur le caractère insecticide dans les plantes, est-ce qu'il a des effets sur la consommation humaine ou sur la consommation animale, ou est-ce que ça pose des problèmes en termes de génération de résistance sur les insectes pas forcément ciblés, ou même les insectes ciblés. Sur la biodiversité aussi, est-ce que, par exemple, les résistants aux herbicides peuvent, vu qu'on leur applique un herbicide total qu'on appelle, est-ce que ça nuit à la biodiversité dans toute la parcelle. Il y a aussi des questions sur les constructions génétiques, parce qu'en fait, on ne transfère pas un gène pur, le gène est inséré dans ce qu'on appelle un véhicule moléculaire avec des marques, avec un promoteur, un terminateur et des marqueurs pour les repérer. Et souvent, les marqueurs utilisés sont des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, le fait de transférer un transgène, enfin, cette construction moléculaire peut poser des problèmes justement d'accoutumance à la résistance aux antibiotiques. Ça, c'est un des types de débats. Et enfin, il y a des débats scientifiques assez forts sur le type de plante dans lequel on insère le transgène. Par exemple, le maïs est plus sujet au flux génétique. Donc, les transgènes peuvent passer dans d'autres types de maïs, des maïs conventionnels, ou dans des parents sauvages du maïs. Et ça peut, ça pose aussi toute une série de questions. Surtout, par exemple, il y a des OGM pharma, par exemple, c'est des OGM, des organismes, enfin des maïs censés produire des molécules thérapeutiques. S'il y a flux de transgènes, si on retrouve des molécules thérapeutiques dans les maïs conventionnels qui sont amenés à être consommés, ça peut poser des problèmes. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types de technicité dans le débat scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des questions liées à la biotechnologie, à la génétique, à l'écologie, à l'agronomie et aux facteurs humains, par exemple les facteurs sociaux comment les paysans manient les semences peut vraiment jouer sur les modes de contamination éventuels. Donc plusieurs types de technicité et une certaine complexité, car en fait, toutes ces questions peuvent être vues de manière concentrique du niveau génétique jusqu'au niveau environnemental, voire socio-environnemental, et que tous ces niveaux concentriques interfèrent entre eux. Mais finalement, on peut peut-être résumer toutes ces débats scientifiques à une bataille épistémologique. L'épistémologie, c'est la connaissance de la connaissance, les sciences de la science, sur la manière de concevoir le vivant, en fait, entre d'un côté comme une machinerie contrôlable, c'est finalement la vision de l'ingénierie génétique, le terme parle pour lui, le vivant et le génome est perçu comme un mécanisme et qu'on peut régler et contrôler à la manière d'ingénieur, et une vision beaucoup plus en termes de système complexe, qui est plutôt la vision généralement écologique et qui tend à s'étendre à la génétique. De plus en plus, on perçoit le génome de manière complexe comme un système complexe où les gènes peuvent bouger et interfèrent entre eux. Comment on passe de la controverse, qu'est-ce qui est intéressant dans le pourquoi on bascule finalement d'une controverse uniquement dans les milieux scientifiques à une controverse sociotechnique? Ce qui est intéressant, c'est le moment justement où les questions scientifiques et technologiques interfèrent explicitement avec des problèmes sociaux. Avant, les choix technologiques avaient tendance à s'imposer à la société. Ils étaient indiscutables car ils étaient attachés à ce qu'on pourrait appeler l'idéologie du progrès, où il y avait une chaîne un peu mécanique entre science, technologie, croissance économique, progrès et bien-être social. Or, des problèmes liés au nucléaire, des scandales sanitaires type vache folle ou sang contaminé ont eu tendance à éroder un peu cette croyance entre cette chaîne mécanique qui allait de la science au bien-être social. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que des questions technologiques avant qui ne faisaient pas partie du débat démocratique, c'était des questions, ce que Beck appelle des questions subpolitiques, sont devenues des questions politiques, donc qui font l'objet d'un débat social et de la mise en place de dispositifs politiques. Donc on a assisté à une politisation et une polarisation des débats autour des OGM. J'aime bien l'expression en fait de Bernard Chevassieu-Louis, qui a été directeur du Muséum national d'histoire naturelle, qui parle de la controverse comme d'un dialogue de sourds ou d'un monologue de bien-entendants. C'est-à-dire que dans cette controverse, il y a à la fois des luttes d'intérêts, très claires, monologue de bien-entendants, mais aussi des problèmes de compréhension mutuelle. C'est aussi un dialogue de sourds. Les gens ont l'impression de parler de la même chose, mais ils parlent depuis des points de vue tellement différents que finalement, ils ne se comprennent pas. C'est un problème de communication assez intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les OGM permettent, une des particularités des OGM, c'est qu'ils permettent de parler de toute une série d'évolutions sociales majeures qu'on peut regrouper autour de trois grands axes, un autour de la connaissance, l'autre autour de l'économie, et enfin un autre axe autour de l'environnement et des rapports nature-société. En ce qui concerne la connaissance, les OGM interroge le rôle de la connaissance dans la société et l'économie, et justement ce qu'on appelle la société et l'économie de la connaissance, où la valeur est générée non pas par le produit matériel, mais dans la connaissance qui est internalisée dans le produit. Les OGM, finalement, comme tous les produits high-tech, correspondent à ce modèle économique où ce qui fait la différence, par exemple, entre un maïs hybride traditionnel et un maïs transgénique, c'est toute la recherche et développement qui a été fait en amont et qui justifie le surcoût. Les OGM, dans ce même ordre d'idée, avec les OGM, dans les années 80 aux États-Unis, est né le modèle de recherche qu'on appelle en triple hélice, par analogie à la double hélice d'ADN, mais surtout qui renvoie en fait à l'alliance entre le gouvernement, des centres de recherche universitaires ou publics, et les entreprises. L'objectif derrière ce modèle, c'est l'innovation, et surtout, on change un peu de perspective, puisque la recherche doit être productive économiquement. Vu que la connaissance génère de l'activité économique, de l'innovation et par chaîne de l'activité économique, on doit sécuriser cette connaissance à travers tout un système de droit qui est aussi apparu essentiellement dans les années 80, le système des brevets et notamment des brevets sur le vivant. Donc ce qui est important, c'est que la connaissance et son contrôle deviennent vraiment un enjeu de société majeur et un enjeu économique majeur. Les OGM permettent aussi de mettre en lumière certaines dynamiques quant à la globalisation de l'économie. Ça permet de parler du modèle agricole productiviste, des dynamiques de monopolisation par des firmes transnationales et aussi, par exemple, des questions de dépendance des paysans vis-à-vis des semenciers. Plus généralement, ce qui est intéressant dans les OGM, permettent de parler de l'extension de la logique économique à des secteurs sur lesquels elle n'était pas si présente que ça, notamment la connaissance et le vivant. Donc les OGM sont devenus en quelque sorte le symbole de la marchandisation généralisée. Enfin, les OGM permettent d'interroger notre rapport social à l'environnement et les liens entre nature-société, notamment à travers les risques environnementaux liés à la dissémination des OGM, mais aussi et peut-être surtout sur la manipulation et le contrôle du vivant et de la nature. Pour conclure, finalement, on peut se demander si on additionne tous ces débats qui sont cristallisés dans les OGM, on peut se demander si l'enjeu fondamental commun à toutes ces discussions, c'est pas finalement notre rapport au progrès, à la croissance économique, à la science, à la technologie, c'est-à-dire toutes les vaches sacrées ou les mythes de la civilisation moderne. Finalement, c'est la thèse, c'est un peu ce que je voulais essayer de démontrer, c'est ce que j'essaye de... C'était la thèse centrale de mon ouvrage, c'est qu'en arrière-plan des controverses parfois très techniques et localisées sur les OGM, on peut lire un conflit civilisationnel beaucoup plus fondamental quant aux différentes possibilités de dépasser notre civilisation moderne. Et je finirai sur une citation d'Ulrich Beck, tirée de la Société du risque, qui dit que l'enjeu des conflits générés par le risque est de déterminer si nous pouvons continuer à exploiter abusivement la nature, y compris la nôtre, et si les notions de progrès, de prospérité, de croissance économique et de rationalité scientifique ont encore un sens dans ce cadre. Il continue en disant « En ce sens, les conflits qui éclatent ici prennent la forme de guerres de religion civilisationnelle dans lesquelles il s'agit d'opter pour le bon chemin vers la modernité. À bien des égards, ils s'apparentent davantage aux guerres de religion du Moyen-Âge qu'aux conflits de classe du 19e et du début du 20e. » Voilà, je vous remercie.